Alors, un jour, beaucoup plus tard, peut-être en octobre 1967, son vieux passe-temps a soudain changé de nature. Une nuit, enfoncé dans son trou jusqu'à la taille avec Raquel Welch lui pendant sur les fesses, le pic de son marteau a dû s'enfoncer dans le béton jusqu'aux manches. Il a sûrement récupéré quelques morceaux de ciment, mais il en a sûrement entendu d'autres tomber dans ce puits, rebondir sur les parois et sur le collecteur. Est-ce qu'il savait déjà qu'il allait descendre par là, ou a-t-il été pris par surprise? Je ne sais pas. Il avait pu déjà tomber sur les plans de la prison, ou bien non. En ce cas, soyez certain qu'il s'est démerdé pour les obtenir en vitesse. Il a dû se rendre compte d'un seul coup qu'au contraire d'une distraction, l'enjeu était énorme. Il misait sa vie et son avenir, rien de moins. Même alors, il ne pouvait pas être sûr. Mais il avait déjà une idée assez précise, puisque c'est là qu'il m'a parlé pour la première fois de Zihuatanejo. Tout d'un coup, au lieu d'être un jouet, ce trou imbécile dans un mur devenait son maître. Surtout s'il savait déjà qu'il y avait un collecteur au fond du puits et qu'il passait sous l'enceinte de la prison. Pendant des années, il s'était tracassé pour la clé cachée sous un rocher à Buxton. Maintenant, il devait craindre qu'un nouveau garde trop fouineur n'aille regarder derrière l'affiche et dévoiler le poteau rose. Qu'on lui donne un autre compagnon de cellule ou que, brusquement, après tant d'années, il soit transféré ailleurs. Des craintes qui ne l'ont pas laissé en répit pendant 8 ans. Tout ce que je peux dire, c'est que cet homme avait un sang-froid exceptionnel. À vivre dans une pareille incertitude, je serais devenu complètement fou avant peu. Mais Andy a continué à jouer le jeu. Il lui a fallu, 8 ans encore, s'attendre à tout instant à être découvert. De plus, c'était probable, quels que fussent les atouts de son jeu, un détenu dans une prison d'État n'en a guère. Et les dieux lui souriaient déjà depuis bien longtemps, près de 19 ans. Ironiquement, il n'aurait rien pu lui arriver de pire que de se voir proposer une liberté conditionnelle. Pensez-y. 3 jours avant sa libération, le candidat est transféré dans le bâtiment à sécurité minimum pour passer un examen médical et une série de tests d'orientation. Pendant ce temps-là, sa cellule est nettoyée à fond. Au lieu d'être libéré, Andy aurait écopé d'une longue peine de mitard, au sous-sol, puis serait remonté dans les étages, mais dans une autre cellule. S'il a débouché dans le puits en 1967, pourquoi ne s'est-il évadé qu'en 1975? Je ne suis pas sûr, mais j'ai quelques hypothèses assez solides. D'abord, il a fallu qu'il fasse encore plus attention. Il était trop malin pour foncer en voulant sortir en 8 mois ou même en 18 mois. Il a dû élargir peu à peu l'ouverture de son boyau. Un trou grand comme une tasse à thé quand il a bu son unique verre du Nouvel An. Un trou grand comme une assiette quand il a bu son verre d'anniversaire en 1968. Grand comme un plateau repas à l'ouverture de la saison de baseball en 1969. À un moment, je me suis dit qu'il aurait dû aller bien plus vite qu'il ne l'a fait, après sa percée, veux-je dire. Il me semblait qu'il aurait pu, au lieu de pulvériser cette vacherie et de la sortir de sa cellule grâce au gadget que je vous ai décrit, la laisser tout simplement tomber dans le puits. Le temps qu'il a pris me fait penser qu'il n'a pas osé. Il a pu décider que le bruit donnerait des soupçons à quelqu'un. Ou alors, s'il connaissait l'existence du collecteur, ce que je crois, il a eu peur qu'un morceau de béton le brise avant qu'il ne soit prêt, bouche l'égout et déclenche une enquête. Laquelle, cela va sans dire, aurait entraîné sa ruine. L'un dans l'autre, pourtant, j'estime que le trou était assez grand pour qu'il s'y faufile quand Nixon a prêté serment pour son second mandat. Et probablement plus tôt. Andy était vraiment mince. Alors, pourquoi n'est-il pas parti? C'est là où mes hypothèses deviennent plus floues, bonnes gens, et même de moins en moins fondées. L'une, c'est que le tunnel était obstrué par des détritus et qu'il a dû le déblayer. Mais cela n'aurait pas pris tout ce temps. Alors quoi? Je pense qu'Andy a pu avoir peur. Je vous ai expliqué du mieux que j'ai pu ce que veut dire être intégré à la vie en prison. Au début, on ne supporte pas les murs, puis on en vient à les supporter, ensuite à les accepter. Et enfin, à mesure que votre corps, votre esprit et votre âme apprennent à vivre à une échelle réduite, vous vous mettez à les aimer. On vous dit quand il faut manger, quand vous devez écrire des lettres, quand vous pouvez fumer. Si vous travaillez à la blanchisserie ou à la fabrique, on vous donne 5 minutes par heure pour aller aux toilettes. Pendant 35 ans, j'y suis allé 5 minutes avant la demi. Et ensuite, c'est le seul moment où j'ai jamais eu envie de pisser ou de chier. 5 minutes avant la demi. Si pour quelque raison je ne pouvais pas y aller, l'envie me passait à la demi et revenait une demi-heure plus tard. Je crois qu'Andy a dû lutter avec ce tigre, ce syndrome institutionnel, et aussi avec la terreur que tout cela ait été fait en vain. Combien de nuits a-t-il dû rester éveillé, allongé sous son affiche, obsédé par l'égout, sachant qu'il n'aurait jamais qu'une seule chance? Les plans lui avaient peut-être indiqué le diamètre de la conduite, mais n'avaient pu lui dire comment ce serait à l'intérieur, s'il pourrait y respirer sans s'étouffer, si les rats étaient assez gros et féroces pour l'attaquer, et les plans n'avaient pu lui dire ce qu'il trouverait à l'autre bout, s'il y arrivait jamais. Voilà qui aurait été encore plus drôle qu'une liberté conditionnelle. Andy se fraye un passage dans l'égout, traverse en rampant 500 mètres d'obscurité étouffante, puant la merde, et se cogne à un grillage en acier renforcé à l'autre extrémité. Ha ha, très drôle. Il devait y penser. Et s'il finissait par gagner son pari sur la comète et à sortir, pourrait-il trouver des vêtements civils et s'éloigner de la prison sans être repéré? Et enfin, en supposant qu'il sorte de l'égout, qu'il s'éloigne de Shawshank avant que l'alarme soit donnée, qu'il arrive à Buxton, qu'il soulève le rocher, et ne trouve rien. Pas forcément pour une raison aussi dramatique que d'entrer dans le pré et de voir qu'on y a construit un grand ensemble ou un parking de supermarché. C'est peut-être un gosse s'intéressant aux pierres qui aurait remarqué ce morceau de lave, l'aurait retourné, aurait vu la clé, aurait emporté l'un et l'autre dans sa chambre comme des souvenirs. Ou à l'automne, un chasseur qui aurait heurté du pied le morceau de lave, exposé la clé qu'ensuite un écureuil ou une pie attirée par les objets brillants aurait emporté. Ou, telle année, les crues de printemps auraient débordé la muraille rocheuse et entraîné la clé. Ou n'importe quoi. Ainsi, mon opinion, fondée ou non, est qu'Andy s'est figé sur place pendant quelque temps. Après tout, quand on ne joue pas, on ne peut pas perdre. Qu'avait-il à perdre, demandez-vous? Sa bibliothèque, d'abord. La paix empoisonnée de la vie en prison, ensuite. Toute chance de récupérer à l'avenir sa fausse identité. Mais il a fini par le faire, comme je vous l'ai dit. Il s'est jeté à l'eau et... Mon Dieu, quel succès spectaculaire, non? Dites-moi. Mais est-ce qu'il s'en est vraiment tiré, demandez-vous? Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite? Quand il est arrivé dans le pré et qu'il a soulevé son rocher, toujours en supposant qu'il n'avait pas bougé. Je ne peux pas vous décrire cette scène, car le prisonnier intégré qui vous parle est toujours à Shawshank et s'attend à y rester quelques années. Mais je vais vous dire une chose. Vers la fin de l'été 1975, le 15 septembre, pour être précis, j'ai reçu une carte postale envoyée depuis la petite ville de McNary, dans le Texas. Cette ville est sur la frontière, côté américain, juste en face d'El Porvenir. La partie correspondance avait été laissée en blanc. Mais je sais. Je le sais dans mon cœur, comme je sais que nous allons tous mourir un jour. C'est à McNary qu'il a traversé. McNary, au Texas. Alors, voilà mon histoire, mec. Je n'aurais jamais cru qu'il faudrait si longtemps pour tout écrire, ni qu'il faudrait tant de pages. J'ai commencé juste après avoir reçu cette carte, et je termine aujourd'hui, le 15 janvier 1976. J'ai usé 3 crayons jusqu'au trognon et un bloc entier de papier. J'ai soigneusement caché le tout, bien que peu de gens soient capables de lire mes pattes de mouche. J'ai remué plus de souvenirs que je n'aurais cru possible. Écrire sur soi-même ressemble beaucoup au geste de plonger un bâton dans une rivière limpide pour en remuer la boue du fond. « Bon, tu n'as pas écrit sur toi-même, » dit une voix au balcon. « T'as écrit sur Andy Dufresne. Tu n'es qu'un personnage secondaire de ton histoire. Pourtant, vous savez, ce n'est pas ça. Tout parle de moi. Chaque putain de mot. » Andy était cette part de moi qu'ils n'ont jamais pu enfermer. La part de moi qui se réjouira quand finalement le portail s'ouvrira et que je sortirai, vêtu d'un costume minable, avec $20 me brûlant les poches. Qu'importe si je suis vieux, brisé et terrifié, cette part de moi se réjouira. De cette part, tout simplement, Andy en avait plus que moi et s'en est mieux servi. Il y en a d'autres comme moi, d'autres qui se souviennent de lui. Nous sommes contents qu'il soit parti, mais un peu tristes aussi. Certains oiseaux ne sont pas faits pour être mis en cage, c'est tout. Leurs plumes sont trop colorées, leur chant trop libre et trop beau. Alors on les laisse partir, ou bien ils s'envolent quand on ouvre la cage pour les nourrir. Une part de vous, celle qui savait au départ qu'il était mal de les emprisonner, se réjouit. Mais l'endroit où vous vivez se retrouve après son départ d'autant plus triste et vide. Voilà l'histoire, et je suis content de l'avoir racontée, même si elle est peu concluante et que certains des souvenirs remués par le crayon, comme ce bâton qui va remuer la boue, me font me sentir plus triste et même plus vieux que je ne suis. Merci d'avoir écouté. Et Andy, si t'es vraiment là-bas, comme j'en suis persuadé, regarde les étoiles à ma place, juste après le coucher du soleil. Caresse le sable, marche dans l'eau et sois libre.